You're with SBS Radio.
Le magazine des sports de ce mardi avec la Ligue des Nations, on parle de football et les Pays-Bas participeront à la phase finale de cette Ligue après le match nul de partout avec l'Allemagne. La France est éliminée. Et puis dans le cadre du match amical entre France Espoir et Espagne Espoir, eh bien c'était un match nul, un but partout. Et puis le match amical France-Uruguay aura lieu ce mardi soir. C'est la dernière rencontre de l'année pour les Bleus. Le point avec Cédric de Oliveira pour Radio France Internationale.
Oui, de quoi permettre à Didier Deschamps peut-être de faire confiance à de nouveaux visages. Appelé pour la première fois, Ferland Mendy n'était pas entré en jeu à Rotterdam. Il pourrait bien disputer quelques minutes au Stade de France. Le latéral qui a aussi été convoité par la sélection sénégalaise, contacté par Aliou Cissé, le sélectionneur, il n'avait pas donné suite.
Non, c'est après il m'a appelé, ils m'ont souvent appelé, mais après je suis pas quelqu'un qui va me prendre la tête avec ça et avec la sélection du Sénégal. Donc je leur ai dit que on verra plus tard et je comptais rester à continuer à faire des bons matchs avec mon club et voir comment ça se passerait.
Ferland Mendy au micro d'Antoine Grenier. France Uruguay, ce sera ce mardi.
On passe en Afrique avec la CAN de 2019. Eh bien, la Mauritanie se qualifie pour la première fois en battant le Botswana 2-1. Hugo Moissonnier, Radio France Internationale.
À Nouakchott et dans toute la Mauritanie, on se souviendra longtemps de ce dimanche 18 novembre 2018, ce jour où les Mourabitoun ont battu le Botswana et se sont qualifiés pour leur première Coupe d'Afrique des Nations. Ils avaient déjà participé à Dechan 2014, mais également 2018, sous les ordres de Corentin Martins, déjà le technicien français, qui, comme les supporters mauritaniens, est passé par beaucoup d'émotions. Ce soir, ces joueurs devaient gagner pour se qualifier. Or, ils ont trouvé le moyen d'être rapidement menés au score, et ce par une équipe, le Botswana donc, qui n'avait inscrit aucun but jusqu'ici dans ses éliminatoires. Mais le héros du jour, Ismaël Diakité, a égalisé à la 20e avant de libérer tout un peuple à quelques minutes de la fin. Tout un peuple et un sélectionneur, Corentin Martins.
Pierre, il y a plein d'émotions parce que c'est dur. Tous les matchs sont difficiles et le public nous a soutenus et il fallait parce que ça n'a pas été simple. Il y avait beaucoup d'attentes sur ce match, ce qui n'était pas facile à préparer pour les joueurs parce que c'est beaucoup d'émotions, on a envie de faire beaucoup de choses. Mais malgré le scénario qui n'était pas facile et avec ce premier but marqué par le Botswana en début de match, mais on a gardé notre calme et on a continué de jouer, ça c'est génial.
On passe au tennis, les Masters de Londres, et c'est Alexander Zverev, l'Allemand, qui l'emporte au final contre Novak Djokovic en deux manches, 6-4 et 6-3. Bilan de la finale avec Martin Guez pour RFI.
On attendait Roger Federer qui visait un 100e succès dans un tournoi à Londres. On attendait Novak Djokovic, injouable en cette fin de saison et de nouveau numéro 1 mondial. On a finalement eu Alexander Zverev, 21 ans et pas un seul tournoi du Grand Chelem au palmarès. Un Zverev émoussé, fatigué et même agacé en phase de poule par cette saison qui n'en finit pas. Alors qu'il sortait d'une défaite cinglante 6-4-6-1 face à Djokovic. Mais un Zverev revigoré et survolté à partir des demi-finales. Face à l'expérience des monstres sacrés, le jeune Allemand a joué au Salgos, n'ayant que faire des statues et des trophées de ses aînés, il élimine Federer au forceps 7-5-7-6. Avant de prendre sa revanche en finale face à Novak Djokovic, le Serbe, qui avait pourtant survolé le tournoi sans perdre un seul set, est emporté par la fougue de cet impertinent à la tignasse blonde. Incroyablement solide, très intelligent tactiquement, Alexander Zverev étouffe le numéro 1 mondial 6-4-6-3. Autour de Djokovic de montrer des signes de fatigue, Zverev remporte lui la plus grande victoire de sa carrière et s'invite déjà dans la cour des grands. Figure de proue de la nouvelle génération du tennis mondial, le voilà qui confirme tout son potentiel et qui grimpe à la 4e place du classement.
On passe à la voile avec la victoire de Francis Joyon la semaine dernière, le gagnant de la route du Rhum de la 11e édition. Francis Joyon est au micro de RFI avec Thomas de Saint-Léger.
Êtes-vous aujourd'hui revenu sur terre dans tous les sens du terme ?
Forcément, il faut un petit peu de temps pour récupérer au niveau sommeil, etc. Et je pense, oui, être rentré sur terre quand même.
L'image forte pour beaucoup de cette 11e route du Rhum, c'est cette arrivée incroyable, ce mano à mano, bord à bord presque, avec François Gabart. On aurait dit une régate. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur, ce moment précis ?
Ah ben, ça a été réellement une régate, hein, puisqu'on s'est retrouvé à vue pratiquement toute la dernière heure. Je voyais François qui était entouré d'un nuage de bateaux avec les lumières dans la nuit. Moi, j'avais une trajectoire légèrement plus près du vent. Et après, j'ai vu François, au contraire, qui avec toute cette meute de bateaux qui revenait avec beaucoup plus de vitesse que moi. Et pareil, je l'ai vu très près, à quelques mètres sous le vent de mon bateau dans la nuit. Donc c'était une véritable régate au contact, oui.
C'était stressant ce moment ?
C'était assez passionnant. Il y avait bien sûr le côté stressant, mais ça c'est plutôt négatif, le stress. Je pense que le côté le plus positif était le côté passionnant de vivre une arrivée comme ça. J'avais conscience que c'était un grand moment de voile. Et c'est vrai que j'étais complètement à bloc à essayer de me concentrer le plus possible pour donner le meilleur, surtout pas louper les deux virements que j'ai faits. Et surtout, rester du bon côté entre la ligne et François, bien sûr.
On rappelle à nos auditeurs que vous avez fondu sur François Gabart dans les derniers milles de cette course. Vous étiez à un moment assez largement distancé. Est-ce que sincèrement, à la mi-course, on va dire, vous vous attendiez à un tel dénouement ?
Le maximum d'écart qu'on a eu de mémoire devait être de l'ordre de 130 000. Et 130 000 avec des bateaux comme ça, c'est jamais quelques heures de course. Hein. Quand on a 300 000 de retard, on commence à se dire, bon bah là c'est mort. Quand on a 130 000 de retard, on sait qu'on a toujours une possibilité de revenir en fait.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.